Chers parents, garantissez la scolarité de vos enfants, quoi qu'il vous arrive, avec l'assurance éducation. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Elles touchent des personnes de tous âges. Elles peuvent provoquer des douleurs intenses. Ce sont les maladies non transmissibles les plus courantes. Elles, ce sont les affections bucco-dentaires. La santé des dents, qui dépend non seulement des soins, mais aussi de la prévention, de l'hygiène. La qualité de l'alimentation est en jeu, comme certaines habitudes, comme le tabagisme. Caries, plaques dentaires, gingivite, chute des dents, perte des dents, soigner des traumatismes, affections, anomalies. Eh bien, tout cela va dépendre non seulement d'une bonne information, mais aussi de l'offre médicale, de l'accès à un praticien compétent, comme des capacités à financer cette prise en charge. Nous parlons donc aujourd'hui dans Priorité Santé de l'hygiène bucco-dentaire, conseils pour préserver la santé des dents qui peut avoir des répercussions sur l'ensemble de notre organisme. Et comme tous les jours, nous attendons vos questions, vos témoignages, vos appels. 33 1 84 22 75 75. Toutes vos questions sur la santé bucco-dentaire pour y répondre avec nous en studio, docteur Marjolaine Gosset, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes parodontiste à l'hôpital Chargefoy à Ivry-sur-Seine en région parisienne, chercheuse au sein du laboratoire de recherche en pathologie dentaire à l'Université Paris-Descartes et vous êtes également, docteur Gosset, présidente scientifique de la Société française de parodontologie et implantologie orale. Tout à l'heure, nous allons retrouver en ligne du Burkina Faso le docteur Patrice Guiguimdé, médecin dentiste, enseignant hospitalo-universitaire en chirurgie buccale au CHU Yelgado Ouédraogo d'Ouagadougou. Et en fin d'émission, on va retrouver notre chroniqueur Stéphane Besançon, nutritionniste, directeur de l'ONG Santé Diabète au Mali. Il est à New York à l'occasion du lancement de la coalition des chefs d'État et de gouvernement des États membres de l'OMS sur la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles, pour parler bien sûr notamment du diabète. Ce lancement en marge de l'ouverture de l'Assemblée Générale de l'ONU.
Priorité santé sur RFI.
Alors quand on parle de la santé des dents, on pense presque automatiquement aux caries, aux abcès, docteur Marjolaine Gosset, mais cette santé des dents, elle est indissociable de la santé des gencives.
Tout à fait. Les dents de crotte maladies qui existent au niveau bucco-dentaire sont toutes les maladies de déchaussement des dents, qu'on appelle les parodontites, qui sont des maladies inflammatoires, avec une destruction de tous les tissus d'attache de la dent à l'os de soutien de la mâchoire.
C'est ce qui fait perdre les dents.
C'est la principale raison de perte de dents pour une personne adulte, effectivement. Oui, elles sont très prévalentes. Souvent, ça impressionne même les gens quand on leur dit. On peut considérer que même en France, 50% des patients sont atteints de parodontite adulte, avec 10% des formes sévères. Ces formes sévères, ce sont les formes où il y a des pertes spontanées de dents et qui vont être très compliquées à traiter et à réhabiliter.
Est-ce que ces maladies sont plus fréquentes avec l'âge, avec le grand âge ?
Oui, avec l'âge, on va avoir une accumulation en fait de l'histoire de la maladie qui fait qu'on va avoir des maladies plus sévères dans le temps. Généralement, elles vont se développer à partir de 30-40 ans. On les diagnostique très bien quand elles sont malheureusement présentes, vers les 40-50. Plus on consulte tard, plus on va les dépister et les traiter alors qu'elles sont plus sévères.
Est-ce que c'est quelque chose qui peut expliquer, par exemple, le fait que les personnes âgées, hein, c'est une image commune que l'on a, portent des dentiers ? Est-ce que c'est en raison, justement, de cette mauvaise santé des gencives ?
Oui, c'est aussi une des raisons. Alors, évidemment, le profil de la santé bucco-dentaire a évolué dans le temps, puisqu'avant, il y avait moins de prévention carieuse et moins de soins également. Et donc, du coup, il y avait beaucoup de dents aussi perdues pour raison de caries dentaires. Maintenant, ceci est moins vrai. Et effectivement, la parodontite reste une perte majeure, une raison majeure de perte des dents et donc de réhabilitation des personnes âgées par des appareils dentaires amovibles.
Alors, des gencives qui saignent au brossage, qu'est-ce que ça veut dire, docteur Marjolaine Gosset ?
Eh bien, c'est le premier signe d'appel de l'inflammation gingivale, donc des maladies de gencives. Ça peut être simplement la gingivite. Dans ce cas-là, il y a juste l'inflammation de la gencive. L'ensemble des autres tissus qui soutiennent la dent sont sains. Mais si on ne traite pas cette gingivite, on peut évoluer vers une parodontite. Et dans cette parodontite, l'inflammation de la gencive va, en quelque sorte, entraîner une inflammation de l'os, une destruction de l'os et une destruction de l'attache qu'il y a entre la dent et ces tissus d'ancrage. Et donc, ce déchaussement des dents qu'on appelle la parodontite.
Alors tout à l'heure, bien sûr, avec nos auditeurs, on va parler des douleurs, des caries, etc. Mais cette qualité des dents, elle est essentielle pour assurer certaines fonctions, des fonctions vitales. La première d'entre elles, c'est bien sûr s'alimenter correctement.
Tout à fait. Le confort masticatoire va considérablement réduire avec la qualité des dents. Pas seulement les nombres de dents qui vont être présentes, mais si on a une maladie parodontale ou une maladie carieuse, la capacité à mâcher, parce que les dents ne seront pas fonctionnelles, va aussi diminuer, effectivement.
Essentiel oui. Également pour bien s'exprimer, pour l'élocution.
Tout à fait. C'est toute la complexité de la bouche qui est essentielle pour le sourire, la communication, le bien-être, la phonation, la mastication, l'alimentation, la santé en général.
Docteur Marjolaine Gosset, alors pour justement avoir la meilleure santé bucco-dentaire possible, la première des choses, c'est cette fameuse hygiène dentaire, bien se brosser les dents. Est-ce que ça s'apprend? Est-ce qu'il y a des conseils qu'on peut donner même à la radio sans avoir l'image forcément?
Bien sûr que ça s'apprend et ça s'apprend à tout âge de la vie. Et même des patients qui peuvent venir nous consulter à 50, 60 ans, on peut reprendre cet enseignement en partant de ce que le patient sait déjà, bien entendu. Il y a des grandes bases, hein, on considère qu'il faut brosser le matin et le soir. Environ 2 minutes, que sa brosse à dents soit manuelle ou électrique, les deux peuvent être efficaces. Et il faut avoir une systématisation pour brosser toutes les faces des dents, de toute la bouche, et également sur des faces supérieures. On a des tutos, en fait, des vidéos qui peuvent être accessibles sur le site internet de la Société française de parodontologie, qui peuvent permettre de visionner des images et mieux comprendre le mouvement optimal que l'on va conseiller.
Alors, question d'hygiène, question aussi d'alimentation. Est-ce que ça rentre vraiment en ligne de compte, docteur Marjolaine Gosset, si on se nourrit bien? On a de meilleures dents?
C'est complètement vrai, à deux échelles. Les maladies carieuses, où bien entendu on sait que l'apport de sucre est la raison majeure de l'explosion des caries dans le monde, mais également la santé bucco-dentaire va reposer et parodontale sur l'équilibre alimentaire pour ne pas avoir de carence vitaminique ou des alimentations qui sont synonyme de mauvaise hygiène de vie, c'est-à-dire dénutrition par consommation trop forte de soda, de burgers et d'autres types d'aliments de cet ordre-là.
Justement, il y a une étude qui a été publiée par la revue The Lancet en juillet dernier. Elle montre le rôle de l'industrie du sucre dans la détérioration de la santé bucco-dentaire au niveau mondial, en particulier dans les pays émergents où l'agroalimentaire est très agressive dans le domaine des boissons, donc fameux soda et aliments sucrés.
Tout à fait. Et en France et en Europe, même là-dessus, on voit apparaître, alors que la carie est mieux protégée, l'explosion des maladies qu'on appelle les usures dentaires, les érosions dentaires, qui sont la destruction chimique des dents par les acides qui font fondre les dents. Et les sodas, qui sont extrêmement fréquents, c'est un vrai problème actuellement. On a beaucoup de jeunes adolescents qui ont des dents complètement fondues à cause de ces alimentations.
Alors on donne tout de suite la parole à nos auditeurs et à nos auditrices.
Priorité santé sur RFI.
Auditeurs très nombreux au standard, preuve que cette santé bucco-dentaire, ça intéresse tout le monde. Premier auditeur en ligne du Cameroun de Yaoundé. Avec nous, c'est William. Bonjour William.
Oui, bonjour.
Le docteur Gosset vous écoute. Allez-y, posez votre question.
D'accord. Alors, docteur, j'ai un souci. Voilà, mon souci porte sur le tartre dentaire. J'aimerais savoir, est-ce que lorsque vous avez une plaque de tartre sur les dents, cela signifie déjà que votre dent est cariée? Je pose ma question parce que j'ai mon petit frère qui a le tartre, et lorsqu'il avait le tartre aux dents, laisse-le constater qu'il avait le tartre sur les dents, il avait la première sensibilité dentaire. Et plus tard, la dent était cariée. Et lorsqu'on est parti chez le dentiste avec lui, on s'attendait à ce qu'il prescrive une ordonnance pour traiter ou alors pouvoir sauver la dent. Mais il s'est juste précipité à enlever la dent. Et maintenant, moi, j'ai constaté aussi que j'avais le tartre. J'avais un début de tartre sur la dent, mais je n'ai pas le problème de sensibilité. Je voulais savoir si cela pourra me causer une carie plus tard, ou alors s'il y a un traitement pour me débarrasser de ce tartre dentaire, ou alors je dois aller chez le médecin.
Alors, question sur le lien entre la présence de tartre et le développement de caries dentaires.
Alors bonjour William, merci pour votre question. Le tartre, c'est de la plaque dentaire, donc des bactéries buccales qui ont minéralisé et qui sont restées collées aux dents. Donc le tartre est surtout associé à l'inflammation des gencives et aux parodontites et aux destructions de tissu support des dents. Mais c'est vrai que s'il y a beaucoup de tartre et beaucoup de plaques dentaires, ça va être un facteur de risque également pour les caries dentaires et ça peut notamment masquer des caries qui se développent. Donc ça peut être un des facteurs qui explique le développement de caries, même si c'est pas forcément le principal facteur que l'on recense.
Est-ce que, William, vous avez les moyens, la possibilité, justement, de faire, on parle d'un détartrage, c'est cela ?
Tout à fait.
Vous avez la possibilité de le faire, William ?
Oui, j'ai la possibilité, c'est au moment que j'ai chez le dentiste. Sauf que les dentistes de maintenant, ils ne sont pas assez clairs, parce que quand vous allez chez le dentiste et que vous voulez faire détarter, ils vous sortent une autre ordonnance, parce que pour moi, ils veulent seulement arracher la dent ou alors donner un dentiste qui n'est pas ça, qui n'est pas ce du tartre dont vous souffrez.
Peut-être qu'il faudrait voir dans votre entourage, William, de parler avec vos amis pour essayer de trouver le meilleur dentiste possible, celui qui fera ce que vous voulez. Et j'imagine que si vous arrivez en disant « je viens pour un détartrage », bien sûr, c'est lui le professionnel hein, qui va pouvoir dire si éventuellement il y a une carie ou quelque chose. Mais si vous venez pour faire un détartrage, il n'y a pas de raison qu'il vous arrache une dent.
D'accord, j'ai suivi.
Je me permets juste de dire que le tartre, ça va être un problème de l'ensemble de la bouche, alors que la carie dentaire, ça va peut-être pas concerner toutes les dents. Donc le détartrage, c'est une approche globale pour rendre plus de santé dans la bouche. Et ça va être fait tous les 6 mois, tous les ans, pour permettre justement de diminuer le risque d'avoir des maladies bucco-dentaires.
Ça rentre dans le cadre de la prévention directement ?
C'est du traitement.
Même si c'est un soin. Ouais.
C'est du traitement, mais un patient qui vient en visite de contrôle, c'est extrêmement rare qu'il n'y ait pas de détartrage à réaliser en visite annuelle.
Voilà, Yaoundé, on vous souhaite une très bonne journée, William. Et merci beaucoup hein, pour votre appel. On va tout de suite partir pour le Burkina, pour la ville de Zignaré, où l'on retrouve Mélisa. Bonjour Mélisa.
Et bonjour.
On est à votre écoute, le docteur Marjolaine Gosset vous écoute, allez-y.
Ok, moi ma question c'est concernant le saignement de la bouche. Souvent quand je me lève le matin, je constate que ma salive, il y a du sang dedans. Et quand je me brosse aussi, je saigne. Il suffit d'une petite pression seulement et j'essaie. Et c'est vrai que j'ai la mauvaise haleine.
Alors, première question sur le saignement des gencives. Deuxième question sur la mauvaise haleine. Docteur Gosset, si vous voulez demander autre chose à Mélisa.
Bonjour Mélisa, mais je crains que le tableau que vous me décriviez soit extrêmement parlant en lui-même, c'est-à-dire qu'avoir des saignements de gencives spontanés presque, ou simplement lorsqu'on le provoque par le toucher, et avoir une mauvaise haleine, ce que nous on appelle halitose hein, d'un point de vue médical, ce sont deux signes de parodontite, c'est-à-dire que ça signifie qu'il y a une très forte inflammation dans votre bouche et très certainement un début de destruction des tissus d'attache des dents. Et la mauvaise haleine, en fait, elle est souvent liée au fait qu'il va y avoir beaucoup de bactéries en bouche qui vont avoir proliféré et s'est glissé sous cette gencive qui est très inflammée et comme elle est inflammée, elle est gonflée.
Est-ce que ce sont pour autant des abcès ?
La parodontite va très peu se manifester par des abcès, il peut y avoir des suppurations, c'est-à-dire qu'il peut y avoir du pus qui s'écoule légèrement en bouche, mais ça va pas être quelque chose de collecté et de extrêmement douloureux. Et c'est pour ça que ça passe souvent inaperçu, parce qu'il n'y a pas de signe d'appel majeur qui est la douleur qui nous emmène très souvent consulter. Et c'est plus pernicieux, et ça va être ces saignements, cette halitose, des dents qui se mettent à bouger, à changer de position. Quand elle tombe toute seule, c'est que la maladie très évoluée qui vont être des signes d'appel.
Alors, Mélisa, ça veut dire qu'il faut qu'elle aille chez le dentiste.
Elle a deux signes d'appel forts pour aller chez le dentiste, tout à fait, oui.
Et il faut s'attendre à quel type de traitement ?
Les traitements, ça va être d'abord tout ce qui est lié en conseil sur l'hygiène bucco-dentaire, puisque c'est des maladies qui vont être initiées par un déséquilibre entre la quantité de bactéries dans la bouche et la façon de se défendre face à ces bactéries. Donc bien brosser les dents, c'est essentiel. Détartrer pour enlever tous ces facteurs qui retiennent la plaque dentaire. S'il y a des caries également ou d'autres soins à faire, on les réalise. Et éventuellement un traitement de nettoyage des racines dentaires qui peut être éventuellement continué par des traitements plus pointus. Mais généralement avec l'ensemble de ces traitements, on traite la bouche.
Pas forcément de bain de bouche ?
Les bains de bouche, c'est une méthode supplémentaire d'aide au contrôle de la plaque dentaire, donc du brossage, mais ce n'est pas systématique. Par contre, un point essentiel sur lequel je me permets d'insister, c'est que si on a une maladie de déchaussement de dents qu'on appelle une parodontite, ça veut dire que cette maladie, c'est une maladie chronique. On va pouvoir stabiliser la maladie, mais on restera à risque toute sa vie. Et donc, il faudra garder une attitude personnelle de brossage et une attitude pour aller consulter son dentiste et celui-ci d'une activité professionnelle pour permettre de diminuer la récidive de ces maladies.
Mélisa, est-ce que vous brossez les dents 2 fois par jour ?
Oui, je me brosse 2 fois, le matin et le soir.
Et vous avez la possibilité d'aller voir un médecin ? Un dentiste ?
Oui.
Est-ce que vous l'avez déjà fait ou pas ?
Oui, je suis déjà allée et on a fait un détartrage.
Un détartrage, et quand vous avez signalé que vous saigniez justement des gencives, qu'est-ce qu'il vous a dit?
Et il m'a dit d'abord qu'on va voir, après le détartrage, si ça continue, je devais voir un spécialiste.
Et vous êtes retournée le voir justement après?
Oui, oui, je suis retournée.
Et qu'est-ce qu'il vous a dit?
Il m'a référé à un spécialiste.
Et donc maintenant, que vous n'avez pas encore vu, c'est bien ça. Oui, docteur Gosset.
Je voulais juste dire, Mélissa est très jeune, puisque je vois qu'elle a 22 ans, puisqu'une information que j'avais supplémentaire. Je ne pense pas qu'elle ait une maladie qui soit très évolutive. C'est certainement assez débutant, ce qui est très positif. C'est-à-dire que si c'est traité maintenant avec un spécialiste, je pense qu'il n'y a aucun risque de perdre de dents ou quoi que ce soit. Donc il faut aussi aller consulter le plus tôt possible quand on a ces signes d'appel. C'est très important.
Donc vous avez le diagnostic. Maintenant, il faut vous soigner. Mélissa, on vous souhaite une très bonne journée au Burkina. On part pour le Togo, à Lomé, où Lazare est avec nous. Bonjour Lazare.
Bonjour Caroline, bonjour docteur.
Bonjour Lazare. On est à votre écoute, on écoute votre question, allez-y.
Voilà, moi j'ai 55 ans, je bois beaucoup, je fume énormément, et depuis 5 ans j'ai des douleurs récurrentes au niveau des dents. Bon, je me suis déjà fait enlever 5 dents, et actuellement j'en ai 2 qui sont fêlées et une qui est trouée. Bon, je voulais savoir s'il y a un rapport entre ma maladie et mon mode de vie et, bon, solliciter les conseils du docteur pour voir ce que je peux faire.
Lazare, je vais faire un petit peu ma mauvaise tête avec vous. Vous avez dit vous-même que vous fumez et que vous buvez beaucoup. Donc, j'imagine que vous pensez que cela peut avoir un effet sur la santé de vos dents.
Oui, c'est ce que je pense, oui.
Et malgré tout, vous continuez?
Non, bon, j'ai arrêté en ce moment de fumer et de boire. Bon, j'ai diminué ma quantité de tabac aussi.
Vous avez, voilà. Donc ça, c'est déjà un bon signe. Maintenant, je laisse la parole au docteur Gosset.
Bonjour Lazare. Bon, effectivement, je pense que tout le monde sait que fumer et boire, c'est mauvais pour la santé et la santé bucco-dentaire est concernée par là. Généralement, c'est surtout des facteurs de risque, toutes ces maladies de déchaussement de dents. Après, ça peut également entraîner des sécheresses de bouche, par exemple. On fume beaucoup et en ayant plus de sécheresses de bouche, on a des risques de caries majorées. Après, le tableau clinique que vous décrivez peut répondre à plein de choses. Le fait d'avoir perdu plusieurs dents et d'en avoir des fêlées et des trouées, ça pourrait presque plus ressembler à des problèmes de caries qui peuvent être présentes uniquement parce que il y a aussi une alimentation qui est déséquilibrée, un brossage dentaire pas assez régulier, des consultations chez le dentiste pas assez réguliers. Toujours est-il que je pense que de revoir un dentiste pour évaluer les raisons, faire un tableau clinique, des diagnostics, quelles sont les maladies, évaluer quels sont les éléments que vous pouvez modifier, et puis vous faire accompagner éventuellement pour tout ce qui est le tabac, si c'est possible, là où vous habitez, parce que arrêter de fumer, c'est pas évident, on le sait tous, mais c'est essentiel pour la santé. Ça, c'est les meilleurs conseils que je pense que je peux vous donner.
Alors justement, quand on dit aux fumeurs que fumer c'est mauvais pour les dents, on a forcément du mal à imaginer c'est quoi l'effet entre tirer une bouffée sur une cigarette et avoir de bonnes dents. Quel est le rapport? À part bien sûr la nicotine qui jaunit les dents et avant même quand il y avait des cigarettes sans fil qui jaunissaient les doigts. C'est quoi l'effet sur les dents?
Donc les principaux liens sont sur toutes les maladies parodontales de déchaussement des dents parce que le tabac va modifier tout le fonctionnement du système immunitaire et donc les cellules immunitaires qui sont là pour défendre vont être dysfonctionnelles, vont mal fonctionner. Du coup en fonctionnant vont pas jouer leur rôle et vont être délétères. Il y a aussi un effet de vasoconstriction. La vasoconstriction, c'est la constriction, donc la diminution de la taille des vaisseaux sanguins. Ce qui veut dire que dans la gencive, on a des vaisseaux sanguins. Et ces vaisseaux sanguins vont devenir tout petits. Et s'ils sont tout petits, ils vont amener moins d'éléments de défense quand il y en a besoin. Et puis, il y a tous ces effets également de toxicité des produits qui sont présents, les effets de sécheresse buccale qui vont être associés. Donc, voilà, la cigarette n'est bonne en rien. Et ça, c'est un point essentiel que tout dentiste doit aborder avec son patient lors d'une visite de consultation.
Lazare, vous allez vous rendre en consultation chez le dentiste?
Oui, bon, habituellement, bon, j'ai recours à un dentiste ponctuellement pour me faire arracher les dents. Je vais retourner le voir pour un diagnostic bien précis. Quoi.
C'est ça, pour vous soigner l'ensemble de la bouche et pas simplement les dents une fois qu'elles sont, on va dire, un petit peu que c'est déjà trop tard pour elles. On vous souhaite une très bonne journée à Lomé, Lazare, et nous prenons en ligne Armand qui est au Cameroun. À Njombe, bonjour Armand.
Bonjour Caroline.
Le docteur Gosset est à votre écoute, allez-y.
Bonjour docteur Gauthier.
Bonjour Armand.
J'ai 3 questions pour vous. Mes questions vont sur le tartre dentaire. La première question, j'aimerais savoir si c'est possible de faire un détartrage plusieurs fois au cours d'une année.
Alors oui, c'est possible de se faire détartrer plusieurs fois au cours d'une année. Ça va dépendre de la fréquence d'apparition du tartre. Quand il y en a, il faudra l'enlever. Globalement, on va recommander d'aller au moins faire un détartrage par an. Parfois, on va en faire un tous les 6 mois. Si, par exemple, le patient a des chevauchements dentaires qui fait que c'est plus compliqué pour brosser, il restera plus de plaques dentaires après un brossage et celle-ci pourra se minéraliser, durcir et faire plus de tartre. Ou si le patient, par exemple, a aussi une salive qui est extrêmement riche en minéraux, ça peut dépendre de l'alimentation et d'autres facteurs, il aura plus tendance à avoir des dents qui s'entartrent.
Donc il y a des facteurs personnels qu'il faut qu'on ait plus ou moins de plaques dentaires.
Oui, après le fait est que plus le brossage sera bon et efficace, moins il y aura de plaques dentaires qui restera sur les dents, moins il y aura de tartre dans le temps. Et on peut avoir des gens qui n'ont un détartrage dans leur vie et d'autres qui en auront plus régulièrement tous les 4 à 6 mois, c'est variable.
Alors votre autre question, Armand ?
La deuxième question, en plus que vous avez dit qu'on peut faire un détartrage plusieurs fois au cours d'une année, est-ce que le fait de détartrer les dents n'ont pas un impact négatif ?
Est-ce que ça fragilise ?
Normalement, ça ne fragilise pas les dents. Alors, dans la dent, faut juste avoir en tête qu'il y a deux parties dans la dent. Il y a la partie normalement apparente en bouche qu'on appelle la couronne dentaire qui présente de l'émail. C'est extrêmement dur, l'émail. C'est plus dur que les os. Et donc, c'est vraiment très résistant aux instruments qu'on utilise pour détartrer. Et en dessous, on a la racine dentaire qui normalement est cachée sous le parodonte, sous la gencive. Sauf si on a une maladie de déchaussement des dents, où parfois la racine va être exposée en bouche. Et cette racine, elle n'a pas d'émail, elle a de la dentine qui est moins résistante et qui, elle, par contre, pourra éventuellement souffrir un peu du détartrage en se creusant. Mais de toute façon, s'il y a du tartre, il faut l'enlever. Voilà. Après, c'est de la technique du praticien qui va évoluer en fonction de ce qu'il observera comme endroit où il y a du tartre et des besoins du patient.
Et le meilleur geste personnel donc pour éviter ce tartre, c'est de bien se brosser les dents régulièrement et suffisamment longtemps.
Exactement, avec la technique appropriée et le matériel approprié si on peut en bénéficier, bien entendu.
Voilà Armand, très bonne journée pour vous au Cameroun. On part pour le Bénin, Cotonou. Kalilou avec nous. Bonjour Kalilou.
Bonjour Caroline, bonjour docteur.
On est à votre écoute, allez-y.
J'ai vu une technique de blanchissement de dents sur Internet qui consistait à presser du citron dans du bicarbonate et ensuite passer ça sur les dents pendant environ 3 à 4 minutes. Après l'avoir essayé, j'ai commencé par avoir des ennuis aux problèmes des dents. C'est-à-dire, je n'arrive pas à manger des aliments sucrés comme le chocolat, le date, etc. Et je voudrais savoir quoi faire.
Alors, question de Kalilou sur ce produit maison pour blanchir les dents.
Bonjour Kalilou, merci beaucoup pour votre question puisque c'est des thématiques qu'on aborde beaucoup avec nos patients qui sont à la recherche de remèdes et qui vont beaucoup avoir des sources qui ne sont pas forcément des sources médicales. Voilà. Alors, le bicarbonate en tant que tel, c'est un produit qui est compatible avec la santé bucco-dentaire, qui peut même prévenir les candidoses. On l'indique rarement, mais pourquoi pas. Le citron, par contre, n'a pas du tout notre faveur parce que le citron est très acide et en étant acide, en fait, il va faire fondre vos dents, il va les déminéraliser. C'est comme si vous mettiez un décapant en permanence sur un parquet pour enlever des taches. Et donc, au fur et à mesure, ça l'attaque et ça le fait fondre. Et si vous brossez en plus après, vous allez en fait augmenter ce processus de décapage de votre dent. Et évidemment, à terme, ça entraîne des fontes de l'émail. Si l'émail est moins présent, on va s'approcher de la dent. De la pulpe, c'est-à-dire du nerf de la dent, et on va devenir de plus en plus sensible à l'ensemble des aliments qu'on va manger. Donc, on déconseille complètement l'utilisation du citron, et même pour les patients qui aiment en consommer par plaisir, et car c'est un aliment sain, on conseille de le consommer en buvant de l'eau ou du lait après pour pouvoir justement tamponner à nouveau la bouche, c'est-à-dire changer le pH, et essayer de reprécipiter tous ces éléments qu'on a soulevés des dents sur les dents. Donc, en tout cas, tous les vinaigrettes, les sodas, les alcools type vin blanc, le citron, tous les agrumes, c'est vraiment un enjeu majeur que les gens méconnaissent de problématiques pour la santé des dents et sur ce qu'on appelle ces érosions dentaires.
Moi, j'ai deux petites questions parce que vraiment la question de Kalilou est passionnante. Oui. Est-ce que dans les premiers jours, quand on utilise ce genre de mixture, ça fait blanchir, on dit finalement ça marche ?
Ça décape la dent, donc
c'est
en quelque sorte,
ça
va enlever
un peu.
Va
continuer et aller vers une mauvaise chose.
Oui, tout à fait. Il peut y avoir tout à fait cet effet-là.
Est-ce que l'émail peut se reconstituer ? Comment ?
Non, l'émail ne va pas se reconstituer. Donc, on fait fondre quelque chose qui n'a pas la possibilité de se reconstituer. Au sein de la dent, il va y avoir trois tissus. Donc, la pulpe, c'est le nerf central, entouré de dentine, entouré sur la partie qui est à l'extérieur de l'émail. La pulpe, elle pourra réagir et reconstruire de la dentine, mais l'émail, lui, on ne sait pas le réparer ou régénérer.
Donc, on dit à Kélilou, on arrête directement cette potion magique qui est carrément nulle.
Oui.
Hein. Et deuxième chose, qu'est-ce qu'il peut faire pour se soulager?
Bah, pour se soulager, déjà, en arrêtant, il va y avoir une comme une sorte de boue dentinaire, on appelle ça, des obstruations qui vont se faire physiologiquement sur ses dents, ça va diminuer. Après, il va falloir le plus possible limiter les aliments qui vont être très riches en sucre et autres. Et puis, éventuellement, il peut y avoir quelques vernis qui peuvent être appliqués par un dentiste, notamment très riches en fluor, qui pourront renforcer la dent.
Voilà, Kélilou, pour ces conseils. Est-ce que vous avez une autre question ?
Non, merci beaucoup.
On vous souhaite une très bonne journée à Cotonou, Kélilou. On part pour Brazza, le Congo-Brazzaville, avec Nathanaël en ligne. Pourtant, c'est facile à dire, je ne sais pas pourquoi je me trompe. Bonjour Nathanaël.
Bonjour, c'est Nathanaël et non Nathanaël.
Ah ben voilà pourquoi je me trompe, parce que ce n'était pas le bon prénom. Bon, ben très bonne journée Nathanaël. Et on écoute votre question.
Et bonjour à tous les auditeurs de RFI, bonjour au docteur.
Bonjour Nathanaël.
Voilà. Bien, moi j'ai une question là. J'aimerais savoir, existe-t-il un rapport causal entre le fait de ne pas brosser régulièrement ses dents et les caries?
Totalement.
Parce que il y a des personnes qui ne sont pas particulièrement hygiéniques en matière dentaire, qui ne souffrent pas de caries. De même, il existe des gens qui sont très hygiéniques, comme moi par exemple en matière dentaire, mais on souffre des caries. Je ne comprends pas trop ce phénomène.
Nathanaël, ce qu'il souligne, docteur Marjolaine Gosset, c'est que nous ne sommes pas égaux pour la santé de nos dents. Et on va dire qu'il y a des mauvais élèves du brossage qui s'en sortent bien, et par contre, il y a des gens qui sont assidus, et ben hélas pour eux, ils ont des caries quand même.
Alors, pour la carie dentaire, ça va vraiment être une combinatoire entre la qualité du brossage et l'alimentation également. On ne peut pas ne pas regarder ce que les individus consomment. Il y a des gens qui vont peut-être mal se brosser les dents, mais qui ne vont pas du tout consommer d'aliments sucrés, ce qui va être tout à fait en leur faveur. Alors avoir une bonne hygiène bucco-dentaire, ça va prévenir tous les problèmes de santé au niveau des caries et au niveau des parodontites. Après, l'alimentation, plus elle est riche en sucre, plus ça va augmenter les caries. Malgré tout, on peut avoir des sensibilités, même j'ai envie de dire génétiques, et donc dans la constitution de l'émail des dents et la résistance aux caries, qui font que certains seront plus sensibles que d'autres. Mais même quelqu'un qui est sensible, parce que son émail est de moins bonne qualité, parce que génétiquement c'était moins bien programmé, s'il a une bonne hygiène alimentaire et s'il a un bon contrôle de sa plaque dentaire, il n'aura pas de caries.
Voilà cette réponse, Nathanaël, et cette fois-ci, je l'ai bien prononcée. On vous souhaite une excellente journée à Brazzaville. On prend un dernier auditeur en ligne du Sénégal, de Mbour, c'est Mamad. Bonjour Mamad.
Bonjour.
On vous écoute Mamad.
Quelles peuvent être les conséquences d'une eau à forte teneur en fluor sur les dents, en dehors de la teinte engendrée? J'aimerais aussi entendre le docteur nous sensibiliser pour ceux qui seraient tentés pour avoir des dents blanches.
Avec des produits, comme on a entendu tout à l'heure notre auditeur Kélilou, qui utilisait une potion à base de bicarbonate et de citron. Vous aussi, vous avez entendu des recettes pour le blanchiment des dents?
Bon, j'en ai entendu sur le net, hein, mais bon, moi, j'en ai pas fait.
Oui, parce qu'il y a une sensibilisation. En fait, c'est plutôt dissuader les personnes d'utiliser ces méthodes ou ces recettes qu'on trouve sur Internet. Donc, cette première question, c'est sur la présence de fluor dans l'eau. Ça dépend des villes, docteur Gosset. Ça dépend des lieux.
Tout à fait, ça dépend de la région géographique dans laquelle on habite, et il y a des sources d'eau qui vont être extrêmement riches en fluor là où d'autres ne le sont pas. Alors le fluor est essentiel pour la santé bucco-dentaire puisqu'il permet de prévenir des caries par une action de renforcement de la structure minérale de la dent, mais également antibactérienne. Mais lorsqu'on a une consommation d'eau très riche en fluor pendant toute la constitution des dents, notamment lorsque ces dents sont encore enfouies dans la mâchoire chez un enfant et qu'elles vont se former, en fait, le fluor en grande quantité va être toxique et va perturber la constitution de l'émail de la dent et de la dentine. Et ça va créer des grands problèmes de santé avec des dents qui vont s'effriter, qui vont être plus jaunes. Et qui vont être du coup pas capables de bien se défendre par rapport à la carie dentaire. Et donc on va avoir des gens qui vont avoir même des infections au niveau des racines des dents, des infections du coup qui se manifestent dans la gencive, parce que leur émail ne permet pas de protéger la dent de l'environnement, même quotidien, bactérien du patient. Donc les fluoraux, c'est quelque chose qui est un vrai problème effectivement de santé bucco-dentaire.
Alors comment on s'informe? Comment on sait s'il y a beaucoup de fluor dans l'eau qu'on boit, si on a la chance d'avoir de la bonne eau potable au robinet, ce qui n'est pas partout le cas? Comment est-ce qu'on sait, une maman sait-elle qu'elle doit supplémenter son bébé en fluor? Ça s'est fait à certaines époques en France, après ça s'est arrêté. Et comment on sait si par exemple à table, on doit servir du sel fluoré pour toute la famille et apporter un plus en fluor?
Alors globalement pour les eaux fluorées, en tout cas en ce qui concerne la France métropolitaine que je connais mieux, on peut se renseigner auprès de sa mairie qui connaîtra la quantité de fluor pour essayer de voir si l'eau est très fluorée ou pas. Mais globalement, on ne recommande pas de faire de supplémentation en fluor maintenant parce qu'on a justement eu tous ces problèmes de toxicité. Et le fluor apporté par le dentifrice avec des doses adaptées à l'âge, parce que quand les enfants sont petits, en fait, ils avalent le dentifrice. Ça va être la principale source recommandée d'apport de fluor pour les patients.
Et comme quand Mamad à Hambourg, l'eau qui coule naturellement et riche en fluor, qu'est-ce qu'on peut faire?
On a la possibilité d'avoir accès à une autre source d'eau qui est moins riche, c'est mieux, mais je ne sais pas si c'est possible, effectivement. Je ne sais pas non plus si le fluor peut être éliminé par le fait de faire bouillir l'eau, par exemple, ou des choses comme ça. Je n'en ai pas la connaissance, en tout cas, effectivement.
Et Mamad posait cette deuxième question, et ça va être notre conclusion. Justement, un nouveau message de prévention, nouveau message d'alerte pour ces produits blanchissants.
Il faut faire extrêmement attention à tous les produits de blanchissement qui peuvent être utilisés à partir de produits naturels comme le citron dont on parlait tout à l'heure ou de produits qui vont être commercialisés et qu'on retrouvait beaucoup en Europe dans ce qu'on appelait les barres à sourire. En France, ça a été beaucoup combattu parce qu'en fait, il y a des acides extrêmement toxiques dedans qui étaient très délétères pour les dents. Le fait de blanchir les dents, c'est un acte médical. Il vaut mieux aller voir un dentiste qui pourra regarder si les dents sont saines, qu'on est en bonne situation pour réaliser ce blanchiment et contrôler avec le patient l'application du produit.
Voilà, Mamad, pour les réponses à ces questions. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose?
Oui, je voulais ajouter une petite chose.
Oui.
Bon, par rapport à l'eau fluorée.
Mm-hmm.
Bon, à Bourg-Commune, par exemple, bon, il bénéficie d'une bonne eau qui n'est pas très riche en fluor. Mais dans le département, comme là où j'habite, à Niagagnan, par exemple, et dans certaines localités, si vous prenez la région de Kaolack, la région du Jourbel, bon, si vous allez dans ces régions-là, parfois l'eau est trop riche en fluor.
Donc c'est vraiment un problème local avec évidemment des solutions qui sont difficiles à trouver, on l'a bien compris. On vous souhaite une excellente journée, Mamad, et tout de suite, on va partir pour le Burkina Faso.
Priorité santé sur RFI.
Et en ligne avec nous, docteur Patrice Guiguimdé, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes médecin dentiste, enseignant hospitalo-universitaire en chirurgie buccale au CHU Yelgado Ouédraogo d'Ouagadougou. Docteur Guiguimdé, quelle est la raison principale qui pousse les patients à venir en consultation dans votre service?
Alors les patients qui viennent en consultation dans notre service sont beaucoup plus conduits par la douleur. La douleur oro-faciale, particulièrement la douleur dentaire.
Ça signifie que ces consultations, on peut le dire, docteur, sont plutôt tardives une fois que l'affection est installée, donc avec ce symptôme de la douleur.
C'est exact. Et il faut reconnaître qu'au Burkina Faso, les patients, la population qui est assez pauvre et qui est confrontée souvent à une accessibilité à une grande distance entre le domicile et l'infrastructure sanitaire, fait que recourt souvent aux structures sanitaires en dernier recours quand il a essayé ou l'automédication ou des traitements traditionnels qui se sont soldés par un échec. Et c'est face donc à cette douleur persistante qu'il se décide par fini à venir consulter.
Quand on dit traitement traditionnel, docteur Guiguimdé, ça consiste en quoi? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples?
Oui, le traitement traditionnel consiste en général à utiliser les éléments de la nature, des feuilles d'arbres, des décoctions, des écorces d'arbres ou des racines d'arbres que le patient fait bouillir ou des fois qu'il fait calciner pour récolter la cendre, la mélanger à un liquide pour avoir une certaine pâte, voilà, et cette pâte peut être introduite dans la cavité dentaire ou la solution obtenue après avoir bouilli les feuilles ou les écorces sont utilisés pour ou gargariser la bouche ou en application comme un bain de bouche.
On imagine quand on introduit ce genre de pâte dans une dent déjà cariée, ça doit être excessivement douloureux. Docteur Patrice Guiguimdé, en termes d'hygiène bucco-dentaire, est-ce qu'il y a certaines habitudes, hein, d'après vos observations, certaines habitudes qui peuvent vraiment être améliorées?
Oui. Ce qui peut être amélioré, c'est surtout la sensibilisation. Pousser, encourager les patients à consulter très vite les structures sanitaires quand ils ont des problèmes de dents.
Et ce n'est pas le cas aujourd'hui, vous le disiez, avec un certain retard sur la consultation. L'Organisation mondiale de la santé retient comme norme, hein, pour avoir une bonne santé des dents, un dentiste pour 10 000 habitants. On peut dire qu'au Burkina, on est très loin du compte.
Oui, au Burkina, nous sommes très loin du compte parce que selon le recensement que l'ordre, enfin, selon le nombre de dentistes inscrits à l'Ordre national des chirurgiens dentistes cette année, nous avons recensé à peu près 75 dentistes pour 19 millions d'habitants.
Oui, donc on va même pas faire un rapport, on va pas faire un rapport mathématique, c'est inutile, on a compris, c'est énorme. Il y a vraiment un énorme effort à faire en termes de formation des professionnels. Alors justement, quand on veut justement éviter d'avoir des caries, on se brosse bien les dents, il faut faire passer le message le plus tôt possible. Est-ce qu'il y a justement des programmes de prévention efficaces, docteur Patrice Guiguimdé, et dans quel cadre on retrouve ces programmes de prévention?
Alors, il y a très peu, malheureusement, nous sommes dans un système de santé où la prévention est quand même, la prévention n'occupe pas la première place. La première place est beaucoup plus utilisée, occupée par l'aspect curatif. Cependant, il y a des espoirs puisque nous avons au niveau du ministère de la Santé ce qu'on appelle le programme national de santé bucco-dentaire qui développe des campagne de sensibilisation en utilisant les étudiants en chirurgie dentaire de l'université Joseph Kizergo de Ouagadougou. Et nous avons aussi des associations, l'association des chirurgiens dentaires du Burkina, de même que l'association des étudiants du Burkina, l'association des infirmiers spécialisés en odontologie, qui de temps en temps mènent des activités de sensibilisation à grande échelle dans des établissements primaire surtout, et aussi lors de la Journée mondiale de la santé bucco-dentaire, le 20 mars, voilà, se montre en faisant des activités de sensibilisation à grande échelle.
Merci beaucoup pour toutes ces explications, docteur Patrice Guiguimdé. Je rappelle que vous êtes dentiste au CHU Yalgado Ouédraogo de Ouagadougou.
RFI à Ouagadougou. 94 FM.
Docteur Marjolaine Gosset, on aborde la dernière partie de cette émission, évidemment, la question de l'accès aux soins. On l'a entendu, ce rapport chiffré qui est absolument éloquent, on peut dire absolument effrayant. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que partout dans le monde, quand même, bien soigner les dents, c'est aussi une question de ressources? Je vais plus loin, est-ce que c'est une question d'argent?
Oui, c'est évidemment une question d'argent. Même dans nos pays industrialisés, développés, clairement, les personnes qui vont moins consulter chez chirurgien dentiste expriment comme frein majeur les ressources financières. À juste titre ou à tort, puisque en France métropolitaine, il faut reconnaître quand même que tous les soins de dents conservateurs sont pris en charge et sont clairement tout à fait accessibles, en fait, pour la grande majorité des patients, même à travers la CMU.
Et il y a justement des programmes de prévention à destination en particulier des enfants avec des visites de contrôle. Donc on reçoit carrément à la maison un fascicule et on peut se rendre chez le dentiste, chez son dentiste, avec son enfant.
Et il y a de vrais progrès aussi pour la femme enceinte. Actuellement, les bilans bucco-dentaires sont également indiqués. Pour les patients diabétiques, la prise en charge des soins de parodontologie sont également possibles. Donc il y a toute une démarche faite par le gouvernement pour permettre aussi le plus d'accès, notamment à des personnes fragiles ou à besoins spécifiques, pour pouvoir avoir ces prises en charge bucco-dentaires.
Vous avez parlé du diabète parce qu'effectivement, certaines maladies chroniques sont particulièrement associées à des problèmes dentaires.
Oui, dans les deux sens en fait. À la fois, à avoir une mauvaise santé bucco-dentaire va pouvoir impacter et être un facteur de risque du développement d'autres maladies. On fait beaucoup d'études, notamment dans notre laboratoire de recherche, sur le côté du lien avec les cardiopathies et le risque ischémique avec le professeur Bouchard. Mais de l'autre côté aussi, avoir une maladie chronique peut favoriser le développement de maladies bucco-dentaires, dont les parodontites. Le diabète en chef de file. On travaille également sur des liens avec les maladies arthritiques telles que la polyarthrite rhumatoïde.
On a parlé de la carie. Il y a carie et carie. Ça veut dire qu'il y en a sur lesquels on peut intervenir à un stade précoce. Il y a différentes étapes. Donc, c'est pour ça qu'il est important de consulter au plus tôt.
Dans les stades les plus précoces de la carie, on n'interviendra pas d'un point de vue curatif. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a... Lorsque la carie va se développer au niveau de la couche superficielle de l'émail, on va pouvoir arrêter le processus et reminéraliser sans avoir besoin d'avoir une action d'ouverture mécanique, de traitement de la dent. Donc oui, plus on consulte tôt, mieux c'est, effectivement.
Alors, des questions des auditeurs, cette fois qu'ils nous ont envoyé sur la page Facebook de l'émission. Il y en a une qui est très intéressante. Tout à l'heure, j'ai cité le bain de bouche. Franck Boriska Yaoundé pose une question. Je sais quelle va être votre réponse, je la pose quand même. Est-ce qu'on peut utiliser un bain de bouche en remplacement, en substitution d'un dentifrice?
Non, on ne peut pas. Parce qu'en fait, un bain de bouche, déjà, il faut connaître le principe actif qui est dedans. Si c'est un antiseptique, c'est-à-dire quelque chose qui détruit les bactéries, il va avoir un rôle. Mais il va détruire que les bactéries de la couche superficielle, celle avec qui il est en contact. Sauf que les bactéries, elles prolifèrent et elles se créent tout un environnement, elles se stratifient. Et donc toutes les bactéries de la couche profonde ne seront pas atteintes et vivront toujours. Donc la couche superficielle se desquamera et le reste reproliférera et ça ne réglera pas le problème. Donc le bain de bouche, ça peut être qu'une aide, on appelle ça un adjuvant, au brossage pour permettre éventuellement de parfaire l'hygiène bucco-dentaire, atteindre des zones qu'on n'arrive pas à atteindre, diminuer l'inflammation si on a beaucoup d'inflammation, atteindre des niches particulières de la bouche pour une désinfection de la gorge par exemple, etc. etc.
Alors certains patients, certaines personnes et des auditeurs l'ont déjà dit au cours de précédentes émissions, quand ils ont mal aux dents, ils prennent un cachet, souvent du paracétamol, pour faire passer la douleur. Qu'est-ce que vous leur dites justement si on a mal aux dents? Est-ce que ça peut passer avec un antidouleur?
L'antidouleur, il va juste calmer la douleur, mais pas traiter l'origine de la maladie. Donc la douleur reviendra dans le temps, et peut-être qu'elle reviendra sous une autre forme. Ce que je veux dire par là, on disait que la carie était graduelle. Ben, la carie, en étant graduelle, va au départ aller attaquer le nerf de la dent. Ce nerf, cette pulpe, va réagir en faisant une très forte inflammation qu'on appelle une pulpite. Et puis, ben, peut-être que si on prend des cachets, on va passer ce stade de la pulpite, et on arrivera vers une nécrose de la dent, et on aura d'autres douleurs, d'une autre forme, qui apparaîtront plus tard. Et au bout d'un moment, il faudra aller consulter. Donc la douleur, c'est un signe d'appel, il faut aller consulter quand on a mal, et le paracétamol peut juste aider éventuellement à tenir la douleur avant d'aller faire cette consultation.
Alors on peut avoir plusieurs types de douleurs. Certaines personnes se plaignent par exemple, docteur Marjolaine Gosset, d'hypersensibilité quand on boit du chaud, quand on mange du froid. Pourquoi ?
Les hypersensibilités dentinaires sont extrêmement fréquentes, beaucoup plus qu'on ne le croit, et ça crée un inconfort majeur dans la vie du patient. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle vient correspondre à des plages de dentine qui vont être explosées. Cette dentine, c'est ce tissu de la dent qui va être sur les surfaces des racines ou qui va être sur la surface de la couronne de la dent quand cette dent a fondu, par exemple l'émail a diminué et que la dentine est exposée. Et donc ça fait des sensibilités au chaud, au froid. Ce diagnostic de sensibilité dentinaire, il est très compliqué à poser parce que ça veut dire qu'on n'a quand même aucune autre pathologie bucco-dentaire. Qu'on est sûr qu'on n'a pas une carie, une fêlure, une fracture de la dent. Mais si on n'a pas toutes ces autres raisons, elles sont extrêmement prévalentes et elles peuvent vraiment amener des douleurs chez le patient. Oui.
Et puis j'aurais une dernière question sur les abcès. On n'a pas parler des abcès. Alors, qu'est-ce qui les provoque déjà, docteur Gosset ? Et est-ce que forcément, quand on a un abcès dentaire, il va falloir recourir à un traitement par antibiotique ?
Les abcès dentaires, en fait, vont être en fait une collection de pus qui va être située au niveau du tissu mou qui entoure la dent, donc de la gencive. Mais ils peuvent être appelés soit abcès gingivaux, et ils vont donc être liés en fait à, par exemple, un tassement alimentaire qui fait qu'il y a beaucoup de compression et d'accumulation de plaques dentaires.
Est-ce que c'est forcément douloureux ?
Oui, l'abcès, quand il va être collecté, c'est-à-dire très gonflé et fermé, va être douloureux. S'il se perfore, qu'on a un petit point blanc, ou que, au contraire, il se draine par la gencive, il va être moins douloureux. Sinon, on peut avoir les abcès du parodonte, et là, qui vont être plus liés à la maladie de la gencive ou à une nécrose de la dent.
Et du côté du traitement, antibiotique ou pas?
Pas systématiquement. S'il y a un drainage qui peut avoir lieu par le dentiste, il n'y a pas d'antibiotiques à donner. Et au contraire, on essaie de réduire la quantité d'antibiotiques qu'on donne en raison des problèmes qui existent actuellement de résistance aux antibiotiques.
Merci infiniment d'avoir répondu à toutes ces questions. On a compris compris, elles étaient très nombreuses. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Priorité Santé, docteur Marjolaine Gosset. Je rappelle que vous êtes parodontiste à l'hôpital Charles Foy à Ivry-sur-Seine, en région parisienne, et chercheuse au sein du laboratoire de recherche en pathologie dentaire à l'Université Paris-Descartes.
Merci.
Nous prenons tout de suite la direction de New York, où s'ouvre aujourd'hui l'Assemblée générale des Nations unies. Et à cette occasion, doit se mettre en place la coalition des chefs d'État contre les maladies non transmissibles dans le cadre du sommet sur la couverture médicale universelle. Alors, nouveau rendez-vous international pour alerter sur ce fardeau, cette menace des MNT, maladies cardiovasculaires, affections respiratoires, cancers, troubles psychiatriques et le diabète. En ligne de New York, on est avec vous, Stéphane Besançon, bonjour.
Bonjour Caroline.
Stéphane, nutritionniste, directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako, au Mali. On a enregistré cet entretien compte tenu du décalage horaire. Alors Stéphane Besançon, cette coalition des chefs d'État contre les maladies non transmissibles, comment est-ce qu'elle a vu le jour ?
Et en fait, l'année dernière, il y a eu un sommet aux Nations Unies sur les maladies non transmissibles. Donc, il y a une déclaration totalement politique. Et du coup, pas mal de pays se sont rendus compte qu'entre la déclaration politique et, j'allais dire, les grands discours à l'ONU et la mise en place d'actions sur le terrain, il y avait un décalage énorme. Et du coup, sous l'impulsion du président uruguayen Tavares, il a décidé de mobiliser les chefs d'État pour qu'ils passent de cette déclaration politique à des vraies actions concrètes sur le terrain pour les populations.
Alors, cette impulsion du président de l'Uruguay, aujourd'hui, comment cette coalition va-t-elle se constituer ? Est-ce qu'il y a des conditions spécifiques, Stéphane, pour la rejoindre ?
Alors non, c'est une initiative qui est totalement volontaire, c'est pas quelque chose qui va être tenu par des traités, c'est vraiment les pays qui souhaitent dire aujourd'hui pour nos populations, on va réellement faire quelque chose et sortir des grands discours. Eh bien, rejoignez-nous et on va essayer de créer une coalition pour vraiment, vraiment impulser un changement, sortir des effets de déclaration et aller sur des actions concrètes.
Justement, on s'interroge le plus souvent sur l'efficacité de ce genre d'initiative. Est-ce que ce n'est pas une structure de plus, un machin de plus qui sert juste à communiquer plutôt qu'à agir ? Stéphane Besançon, comment s'assurer que les décisions seront prises et on ira au-delà d'un simple affichage ?
Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est que c'est une initiative qui est totalement volontaire. Donc on se dit que les chefs d'État qui vont y aller, c'est qu'ils ont envie de faire quelque chose, puisque les autres devraient ne pas la rejoindre. Ça va être aussi un espace d'échange extrêmement intéressant pour des pays qui ont pris des initiatives. Par exemple, le Mexique veut déjà partager son initiative sur la soda tax. La Grande-Bretagne, qui a lancé un plan massif d'action prévention sur l'alimentation, le surpoids et l'obésité, veut aussi absolument avancer dans ce sens-là. Donc ça va être un vrai espace d'échange. Et après, la garantie de ça, ben, ça va être la société civile qui va suivre ça pour dire vous vous êtes engagé, vous devez délivrer, vous devez faire quelque chose de concret.
Alors, retour d'expérience, on l'a bien compris. Justement, du côté de cette société civile, comment ça se passe par rapport aux chefs d'État, Stéphane ? Qu'est-ce que proposent, par exemple, les ONG ?
Alors, les ONG, elles proposent vraiment des actions extrêmement concrètes à différents niveaux. Alors, la première, c'est que ces chefs d'État-là prennent des actions législatives. Ça va être les taxes sur les boissons sucrées, c'est les mesures sur le tabagisme, c'est les mesures sur la pollution de l'air, puisqu'on sait aujourd'hui qu'il y a un lien direct. Donc déjà, c'est d'attendre que les États prennent des mesures. Et après, la deuxième chose très importante, c'est qu'ils mettent les moyens pour les actions de terrain, à la fois pour les soins, pour l'accès au traitement et pour toutes les mesures de prévention, de campagne de prévention qui sont nécessaires. Donc les ONG vont vraiment être sur les deux niveaux, à la fois au niveau politique pour les mesures, ce qu'on appelle législatives, et le côté plus terrain pour être sûr que les structures de santé prennent en charge correctement, les plans de prévention sont en place. Donc vraiment une action à deux niveaux.
Merci beaucoup. Après les paroles, les actes. Merci beaucoup Stéphane Besançon. Et à très bientôt dans Priorité Santé, toujours pour parler nutrition et bonne santé. Merci à vous.
Merci.
Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique, réalise votre émission. Aujourd'hui, Juliette Brault, Baptiste Madinier, Didier Bleu, Laurence Naud. Demain, on va parler des hernies. Diagnostic, prise en charge, chirurgie des hernies abdominales et inguinales. Vos messages, vos questions, la page Facebook bien sûr de Priorité Santé. Et notre numéro 33 84 22 75 75. À demain, d'ici là, portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance qui garantit à tous les parents du monde la scolarité de leurs enfants, quoi qu'il arrive. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance. RFI.